VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Des pirates somaliens sont soupçonnés d'avoir détourné dans le golfe d'Aden un cargo pétrolier sous pavillon sri-lankais, d'après l'agence Reuters, qui cite l'avis d'un spécialiste de piraterie. Le navire a émis un signal d'alarme avant d'éteindre son système de repérage et de se dérouter vers la pointe de la Corne de l'Afrique. Si l'incident est confirmé, il sera le premier détournement d'un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2012. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu de la création d'une plateforme de dialogue pour contenir les tensions xénophobes. La mesure a été annoncée lundi à l'issue d'une rencontre à Pretoria entre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et son homologue nigérian. Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud, souhaite que la plateforme mette le pied dans le plat.
On salue la création de cette plateforme. Seulement, ce qu'on est en train de dire, c'est que on sait comment est-ce que le sujet des attaques sur les migrants ici, pratiquement depuis 2008, ce sujet a été traité par le gouvernement sud-africain. On se demande, est-ce que ce serait avec une franchise que le gouvernement sud-africain va travailler sur cette plateforme? Parce que on sait que le gouvernement sud-africain est en train d'entretenir un flou sur la question, parce que ou bien on se rend compte que notre peuple est xénophobe et donc pour ne pas perdre ses voix lors des élections prochaines de 2019, il faut entretenir la chose et faire croire que non, mais tu es aux côtés de la société civile qui se plaint des migrants et qui veulent même pas que les migrants vivent ici. En même temps, il faut protéger les intérêts bilatéraux qui existent entre les pays. On ne souhaiterait pas, parce que nous, on se dit que quand les attaques se passent, on perd des vies humaines. Et ce serait dommage qu'on fasse des jeux alors que les gens perdent leur vie.
Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud. Au Bénin, débat autour de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Certains points clés, comme le mandat unique, dérangent pour beaucoup. Si l'actuel président a pris sur lui la responsabilité de faire un seul mandat, il ne doit pas l'imposer à ses successeurs. À Cotonou, retrouvons notre correspondante Jeannette Fleur Adendé.
Faut-il réviser ou pas la loi fondamentale du Bénin? Le débat a dépassé cette étape et se retrouve aujourd'hui à remettre en cause certaines subtilités contenues dans les propositions faites par la commission présidée par le ministre de la Justice. Certaines personnes avertis disent tout haut que le gouvernement serait en train de tout faire pour contourner une consultation référendaire. Elles voient d'un mauvais œil la possibilité que le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin atterrisse sur la table des députés sans passer par le filtre d'un débat public. En clair, beaucoup craignent que les députés, pour la majorité acquis à la cause de Patrice Talon, n'aide ce dernier à contourner les contraintes légales d'un recours au référendum. Pour Bob Batio, consultant sociologue, la révision de la Constitution ne saurait passer sans un quelconque débat.
Pour une révision qui se veut juste et objective, il faut la nécessité pour l'élite populaire et les forces vives, à défaut de l'ensemble de la population, de s'en imprégner et d'en discuter afin de retenir les amendements substantiels. Un chef d'État ne peut donc imposer, en complicité avec la majorité gouvernante, sa vision à l'ensemble du pays.
Pour Epiphane Dalokono, au-delà de la révision de la loi fondamentale, il faut penser à inculquer aux Béninois le respect des tests.
C'est dans l'application de nos tests que nous pourrions donc analyser si oui ou non les populations pour lesquelles nous avions retenu ces tests-là, si ces populations se sentent épanouies, se sentent développées.
L'un des points qui dérange certains dans le projet de révision de la loi fondamentale, c'est le mandat unique. Pour l'hôte Rouenou du Parti des valeurs républicaines, les Béninois doivent manifester pour bouter hors de ce projet le mandat unique perçu comme le bouclier qui permettra au chef d'État de gouverner sans foi ni état d'âme.
Le mandat unique est à rejeter, à balayer hors de la République. La seule occasion pour les citoyens qui constituent des électeurs pour se venger, c'est le prochain mandat d'un chef d'État en exercice. Dès lors qu'on parle de mandat unique, le peuple n'a plus son pouvoir réel à exercer vis-à-vis d'un élu. Il faut laisser le peuple exercer son pouvoir réel.
Mais le ministre de la Justice persistait s'il ne s'agira pas de remettre en cause tout ce qui existait, mais de rendre plus forte et républicaine certaines dispositions pour un développement harmonieux du Bénin. Joseph Diogbenou.
Nous ne sommes pas dans la réécriture de la Constitution. Nous ne sommes pas dans la fondation d'une nouvelle République. Et donc, nous n'avons pas besoin de considérer les états généraux de la République.
La Constitution, si elle est révisée, elle pourrait contenir les réformes telles que la création d'une Cour des comptes, le rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions, la réforme du système partisan et bien sûr la réforme du mandat unique, objet de toutes les récriminations actuellement. Une grande marche est d'ailleurs prévue pour le mercredi prochain à Porto-Novo, la capitale, pour dire non, selon les organisateurs, à une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit troublé lundi par des informations faisant état de tortures et d'enlèvements au Burundi. Le Conseil a toutefois ignoré les appels d'organisations de défense des droits humains à imposer des sanctions. Une déclaration à l'initiative de la France a été toutefois adoptée à l'unanimité après quelques ajustements avec la Russie, la Chine et l'Égypte qui s'opposent aux sanctions. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appuyé la proposition du médiateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, de tenir un sommet régional afin d'inciter le gouvernement et l'opposition du Burundi à ouvrir des négociations. Deux experts des Nations Unies, l'un de nationalité américaine et l'autre de nationalité suédoise, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais, ont été enlevés au Kasaï central. Les faits se sont produits à 120 km de la ville de Kananga. La MONUSCO, qui confirme cette information, dit ne pas disposer de plus d'éléments sur les kidnappeurs et leurs exigences. Et le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête. Les détails tout de suite avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire au Congo.
Selon les informations recueillies sur place et confirmées par la MONUSCO et le gouvernement, ces deux experts de l'ONU, accompagnés de quatre citoyens congolais, ont été kidnappés à 120 km de la ville de Kananga, sur l'axe Bokonde-Chimbulu, par un groupe armé non autrement identifié. D'après Charles Bambara, le responsable de l'information publique de la mission de l'ONU en RDC, ces deux employés des Nations Unies, de nationalité américaine et suédoise, travailler pour le groupe des experts en RDC chargé par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'embargo sur les armes. Ils ont donc, dans le cadre de cette mission, loué trois motos à Kananga et pris la direction de Chimbulu avant de tomber sur cette embuscade. Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, souligne que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, présent à Kananga, travaille actuellement pour identifier ce groupe armé et obtenir leur libération. Car pour le moment, ni la MONUSCO, ni le gouvernement ne disposent des informations fiables sur le lieu où ils sont gardés, ainsi que sur l'identité et les exigences des kidnappeurs. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le premier ministre haïtien, nommé il y a près de trois semaines par le président Jovenel Moïse, a fait connaître hier les membres de son gouvernement, composé de novices pour la plupart. Jacques-Guy Lafontaine, médecin lui-même inconnu de la scène politique, le mois dernier, a signé l'arrêté officialisant la nomination de ses 18 ministres, dont seulement 5 femmes. Selon la Constitution, cette nouvelle équipe gouvernementale doit, avant de prendre fonction, se présenter devant le Parlement pour faire valider la politique générale du Premier ministre. Le conseiller de Donald Trump sur les questions proche-orientales et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rencontrés lundi, a annoncé le gouvernement israélien dans le cadre des tentatives de l'administration Trump de relancer le processus de paix. Dans un communiqué, le cabinet du Premier ministre israélien précise que le conseiller américain Jason Greenblatt a réaffirmé l'engagement du président Trump en faveur de la sécurité d'Israël et des efforts pour aider Israéliens et Palestiniens à atteindre une paix durable par des négociations directes. Les négociations de paix entre Israël et les représentants palestiniens ont été gelées depuis 2014 et ces derniers sont inquiets de la position plus favorable affichée par Washington envers Israël depuis l'arrivée de Donald Trump. Et puis, une violente tempête de neige s'est abattue aujourd'hui sur le nord-est des États-Unis, provoquant la fermeture des écoles, l'annulation de milliers de vols et le report d'une rencontre du président Donald Trump avec la chancelière allemande Angela Merkel. Les régions les plus touchées sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent quelque 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige étaient attendues aussi, depuis la Caroline du Nord jusqu'à l'État septentrional de Maine, en passant bien sûr par Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.